Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Bonjour tout le monde et bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on jase de crime autour d'un café. Je suis votre animatrice Audrey et comme à mon habitude, je ne suis pas seule. Je suis avec mon amie et co-animatrice Catherine. Catherine, comment ça va?
Bonjour partner, ça va bien? Je suis ici en direct de mon nouveau studio dans mon petit bureau qui donne sur le chemin où il y a beaucoup de motos qui passent. Alors c'est Catherine qui est agrémentée de bruits de rue.
Avec des motos! De moteurs!
Des motos pis des gros chars, vroom vroom!
Yes, sir, partner! Alors, si je comprends bien, aujourd'hui, t'as un crime pas mal rock'n'roll pour nous autres, mon chum!
Moi, je pense que si on qualifiait ça de rock'n'roll, on insulterait du monde, fait qu'on va qualifier ça de heavy metal, même si moi, je suis pas d'accord. Mais ouais, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui va groover!
Alors, on espère que vous avez mis vos manteaux en cuir, vos bracelets avec des spikes, puis que vous avez les cheveux longs.
Puis que vous avez un bandana pour dégager votre beau visage, surtout.
Ouais, on veut vous voir, mes beaux messieurs. Mais là, avant d'aller dans un mosh pit,
ouais.
Ça prend de l'énergie.
Ben
alors,
ouais.
Quand on veut de l'énergie, hein, on boit du café.
Ah, ouais, on fait ça aussi.
C'était mon segway.
C'est un bon segway. Quand on a un vrai rocker dans notre cœur, on boit du café pour avoir de l'énergie.
Dans mon cœur de rocker, j'ai jamais su lui dire je t'aime. Quelle histoire tragique.
Ah! Alors qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui?
Comme vous l'avez mentionné dans un épisode précédent, maintenant le Roasters Pack est un partenaire de Un peu de crème dans ton café. Chose qui nous remplit de joie une fois par mois parce qu'on reçoit notre boîte avec du café dedans.
C'est notre meilleur ami. Il sera là toujours pour nous avec plein de boîtes de café.
Yes, sir! Alors, le dernier café qui m'a vraiment charmé, qui est mon nouveau coup de cœur et je tenais à vous le partager, c'est le café Kaku qui nous provient du Rabbit Hole Roasters qui est situé à Delson sur la rive sud, alors tout près de entre chez moi et entre chez toi, Catherine.
Yay! Yeah!
Alors, des gens de la Rive-Sud, on vous salue. Et, saviez-vous ça que vous aviez une brûlerie? À toutes les fois que j'essaie de traduire « roasters » dans ma tête, je viens pour dire « rôtisserie ».
Ou ben j'allais dire ça, moi aussi. Saviez-vous que vous aviez un Saint-Hubert près de chez vous?
Maudite gang de chanceux! Mm-hmm. Alors, vous avez une brûlerie tout près de chez vous, le Rabbit Hole Roasters, qui vous offre le café Kaku. Et les notes sont cerises, amande et vanille. Mm. Alors déjà, pour moi, c'était un combo gagnant parce que en termes de dessert, c'est pas mal mes trois saveurs préférées. Mm. Et c'était un café vraiment très doux et qui me rappelait un peu le Coke aux cerises.
Oh, mieux!
Alors, avec juste le petit arôme de cerise qui vient sucrer un petit peu l'ensemble de la boisson, je trouvais que c'était un excellent café d'après-midi. Alors qu'on a peut-être l'estomac un peu plus réveillé pour le côté fruité du café. Mais c'était vraiment un café délicieux. Puis en plus, je tiens à mentionner que les visuels de cette brûlerie sont vraiment magnifiques. Alors, je trouve que c'est un excellent café que je vous recommande. Et encore une fois, merci au Roasters Pack d'avoir commandité cet épisode d'Un peu de crime dans ton café. Thank you, Roasters Pack, for providing us with some coffee for this week's episode. Mais là, Catherine, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, là.
Qu'est-ce qui se passe?
Moi, ça me tente pas de faire le podcast aujourd'hui. J'ai pas mon bon banana. Non. Puis il fait beau dehors. Je m'en vais jouer au spikeball au parc La Fontaine.
Je te comprends, je vais faire un solo de guitare pendant 15 minutes en attendant que tu reviennes sur stage, puis finalement, juste discuter que le show est fini.
Fait que ciao, mon chum.
Bye, mon chum. On se revoit une autre fois, mon homme.
Bye. Ben non, c'est une farce!
Ben non!
Oh, voyons donc, je joue pas au spikeball. Voyons donc, j'ai pas de Laval. J'ai pas de trou dans mes jeans.
Fait que aujourd'hui j'ai une histoire de heavy metal pour vous.
De quoi tu nous parles pendant que mon chat essaye de manger mon fil de micro?
Fait que aujourd'hui j'ai un crime puff parce que à mon avis ce sera pas bien long. Il y avait pas beaucoup d'informations là-dessus, mais c'est quand même un événement qui a choqué l'imaginaire montréalais. Et j'ai nommé l'émeute au stade olympique après le show de Guns N' Roses en 1992.
Oh my god, yeah!
Alors,
yeah!
Alors, en faisant ma recherche
de moto!
La petite voix aiguë d'Axl Rose. Fait que là...
Catherine, fais-moi une phrase avec Axel.
Je sais pas.
Bois pas trop de café, ça fait accélérer le rythme cardiaque. Badum!
Fait que j'ai en faisant ma recherche sur les meurtres au stade olympique de 1992, moi je pensais trouver ben des affaires scandaleuses. Seulement j'en ai trouvé un petit peu. J'ai considéré de combiner ça avec les meurtres au centre Molson quand les Canadiens ont gagné la coupe en 93. Mais je me suis dit que ça allait faire un autre crime puff à la place. Fait que finalement, ce petit crime puff va être consacré à l'émeute au stade après le show de Guns N' Roses, mais aussi à d'autres émeutes qui ont été provoquées, parce que je vais le dire de même, par Axl Rose.
Mon
et
fille,
d'autres
Axl
cas
Rose.
De cour qu'il y a eu contre Guns N' Roses à cause de débordements pendant les concerts. Fait que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Alors, mes sources, la presse, Radio-Can et le Journal de Montréal ont tous les trois fait des articles récapitulatifs. Il y a 25 ans, il y avait l'émeute au stade olympique, ouais. Alors, ce fut mes sources, mais j'ai aussi trouvé des articles contemporains à ce que je vais vous raconter aujourd'hui, de la presse, du Nouvelliste et du Devoir.
Oh!
Fait que là, à soir, on va avoir du fun. On va chanter des tonnes de métal!
Oh my god!
Pourquoi chanter Paradise City, hein? T'sais, take me down to the Paradise City. Parce que on va parler de l'émeute au stade olympique.
Woohoo!
C'est une émeute qui a scellé le destin de Guns N' Roses à Montréal.
Oh my god! Parce que c'est vrai, ils sont pas revenus après.
Parce qu'ils n'ont pas eu le droit de revenir après.
Oh my god!
No way, José, que tu vas revenir ici, maudit
Axl
Rose!
Axl Rose!
Avec ton maudit nom de morceau de voiture. Voilà. Tu connais bien la mécanique. Non. Et là, on commence avec la toune dans le film d'Anastasia. En plein cœur de la nuit, le diable la trouvera. Non, alors, nous commençons en plein cœur de la nuit, le 8 août 1992.
Yes, sir!
Triple spectacle au stade olympique. 57 000 personnes sont rassemblées pour écouter trois piliers de la musique métal. Faith
yes,
No
sir.
More! Metallica!
Oh
Guns
my god!
Roses.
Bruit de moto!
Ok.
Maintenant, alors... maintenant, si tu veux une aussi belle brochette d'artiste, t'as juste à écouter le 97.7.
Ça va être un peu... Ouais, bon.
Ouais.
Alors, la tournée, c'est une tournée panaméricaine, qui s'est déjà arrêtée dans 25 villes. Et là, c'est à Montréal que les trois groupes de has-been... Ben non, c'est pas des has-been, partout. Que les trois groupes vont vraiment faire les manchettes. Fun fact, il paraîtrait que Axl Rose avait demandé à Nirvana d'être le troisième headliner du show. Donc ça aurait été Nirvana, Metallica puis Guns N' Roses. Mais Kurt Cobain aurait refusé sous prétexte qu'Axl Rose est un sexiste et sans doute un fasciste de merde comme George Abitbol.
Oh non! Mais je sais que les deux groupes étaient constamment en conflit.
Oui, ben apparemment, Kurt Cobain aurait déjà dit que les paroles de Guns N' Roses étaient sexistes et c'est pour ça qu'il voulait pas travailler avec eux. Ça a été reporté par Dave Grohl qui a, par la suite, comme s'est prononcé par rapport à ça. Apparemment, il avait été invité à participer au concert et ils ont refusé de participer à cette tournée-là parce qu'ils voulaient pas collaborer avec Axl Rose. Puis on s'entend que Axl Rose, il a pas l'air particulièrement sympathique. OK.
No.
Deuxième fun fact. Est-ce que
en
vous connaissez le vrai nom? En plus d'être un maudit roux, est-ce que vous connaissez le vrai nom d'Axl Rose?
J'ai honnêtement assumé que c'était son vrai nom.
Ce n'est pas son vrai nom.
Je suis donc bien naïve!
Son vrai nom, c'est Bill Bailey. Avec une maudite chance qu'il s'est fait appeler Axl Rose parce que Bill Bailey, ça rock un
ça
peu moins.
Ça n'en jette pas mal moins.
Mm-hmm. Ça n'en jette pas mal loin. Fait que là, Axl Rose a décidé qu'il s'appelait Axl Rose, puis c'est à cause de ça qu'aujourd'hui, on a plein de gars qui s'appellent Axel, puis c'est même pas un nom, c'est le stage name. C'est comme si on y avait plein de gens qui s'appelaient Sting, puis c'était ça leur prénom, tu sais, en tout cas.
Je suis sûre qu'il y a des gens qui s'appellent Sting.
Sûr qu'il y a des gens qui s'appellent Sting.
Mais là, tu vas me dire que Slash, il s'appelle comme...
Je sais pas comment s'appelle Slash, parce que Slash, c'est pas le bad guy de cette histoire. Le bad guy, c'est vraiment Axel, dont le nom s'écrit Axel, avec pas de E.
Oh my god, en plus c'est même pas éplé!
En plus c'est même pas éplé! Alors c'est ça, c'est Bill Bailey qui est un... C'est un nom un peu moins intéressant pour un nom de rocker au cœur tendre, ou dans ce cas-ci, de rocker au cœur recouvert de pic-pic comme les boules qui collent ses vêtements quand on se promène dans le bois. Ce serait une bonne description pour Axl Rose.
Ah oui!
Bon. Alors, bref, au début du concert à Montréal, 1992, 57 000 personnes au Stade Olympique, les gens écoutent « Faith No More ». Et là,
maudite gang de chanceux!
Dans l'assistance, il y a Raphaël Ouellette, qui à cette époque avait 18 ans et par la suite est devenu un réalisateur. Il a été interviewé par Radio-Can dans la rétrospective, tu sais, sur les meurtres au Stade Olympique. Et lui était présent, il avait 18 ans, il regardait le show, tu sais, puis il disait que les gens n'écoutaient pas vraiment Faith No More, puis ils parlaient entre eux, puis lui, il trouvait ça bien irrespectueux. Hein,
je vais 100% honnête, là, je pourrais pas te nommer une chanson de Faith No More.
Je peux te nommer zéro tune de Faith No More, puis je suis allée à plusieurs shows parce que tout le monde se fout de la première partie. Ah ouais, 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 si tu comprends ça, là, ça n'a pas changé depuis 1992. Là. Mais là, tout à coup, attache ta tuque avec la broche, Audrey, parce que Metallica arrive!
Oh my god!
Ok,
là, j'espère qu'ils vont faire Stairway to Heaven!
Les gens sont complètement fous! Ah, oh, j'espère qu'ils vont faire Wild Horses, c'est ma préférée! Ok, fait que là, les gens sont complètement fous de voir enfin le légendaire groupe de métal Metallica!
Comme le nom le dit, c'est un groupe de métal!
C'est un groupe de métal! En plus, c'est des Bruno anglais! Tour. C'est des anglais, non, Metallica?
Oh, c'est des américains!
Ah, ok, excusez, oubliez ça. En tout cas, fun fact!
Iron Maiden, c'est des anglais.
C'est vrai! Troisième fun fact, ça n'a pas rapport, c'est juste plein de digressions, mon affaire. L'année passée, je faisais du tutorat de français avec un petit gars qui avait 13 ans, et le petit gars, il capotait sur Metallica, et il ne me croyait pas le jour où je lui ai dit que je savais qui était Metallica.
T'étais dans ça. Le secret des dieux.
Fait que j'étais dans les le dieux secret du des métal. Dieux, puis apparemment, tout le monde qui commence à jouer de la bass à 12 ans pense que c'est la première personne à avoir découvert Metallica, mais non, il y avait 57 000 personnes au stade qui savaient c'était qui Metallica, ok?
Fait que là... Ils ont découvert tout le monde ensemble ce soir-là.
Fait que là, Metallica est en train de jouer leur grand succès, comme Twist and Shout et Dark Side of the Moon, et là, tout à coup, ils jouent... on fait des blagues en passant, on sait que c'est pas des chansons de Metallica, inquiétez-vous pas. Donc, ils sont en train de jouer ça, et tout à coup, ils jouent Fade to Black. Puis là, apparemment, Metallica a fâché les dieux du stade, ha! Parce qu'il y a une pièce de pyrotechnie qui a explosé et qui a brûlé James Hetfield, le chanteur de Metallica.
Maudit! Oh non, il est en feu!
Fait que là...
Littéralement.
Il est littéralement en feu. Lui est évacué sur le coup, tu sais. Et il est 8h05. Le concert vient juste de commencer. Là. Ça faisait comme peut-être 35, 40, 50 minutes qu'il jouait. Là. Ça faisait pas très longtemps. Là, il est évacué. La scène est silencieuse. Il ouvre les lumières. Les gens se regardent avec leur toupette un peu crêpée, là, puis leur t-shirt trop grand, là, parce que c'est 1993. Puis là, 1992, pardon. Et là, tout le monde est confus. Qu'est-il arrivé à la musique? Et là, tout à coup... Si on en croit les dires de l'animatrice de Musique Plus, Geneviève Borne, qui était présente au concert et qui a fait un reportage pour Musique Plus après le concert. C'est incroyable. Fait que là, selon elle, et je cite, le batteur, Lars Ulrich, est revenu pour dire que James Hetfield était brûlé gravement et que Metallica devait arrêter le spectacle. Fin de la citation. Fait que là, Lars...
Qu'on aille se coucher, guys.
Lars Ulrich est revenu sur le stage et a dit « Oh, really sorry, guys. James Hetfield s'est fait brûler par la pièce de pyrotechnie et l'a été envoyé à l'hôpital général de Montréal. » Et là, Metallica, sont comme, on est vraiment désolés, mais on va revenir bientôt et on va finir le show. T'sais.
Il aurait pas pu juste faire une petite impro de drum pendant une heure.
Non, ça a été tenté de faire une impro de drum pendant une heure. Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'ils ont tenu leur promesse et ils sont revenus en février 1993 pour faire un autre spectacle.
Son don fin!
Fait que le pauvre James Hetfield, il est dépêché à l'hôpital, mais c'est beau, là, il est pas mort.
Général de Montréal.
L'hôpital général de Montréal. Et il avait des brûlures au deuxième et troisième degré à la main droite et au bras droit. Fait que tu sais, c'est plus dur de jouer de la guitare pis de chanter quand t'es brûlé!
Ouais, comme, tu sais, limite de l'endurance humaine.
Mais là, tu sais, il va être correct, là, on s'entend. Bon. Mais là, la foule, est-tu correct? Avec son toupette en l'air pis ses jeans de maman? Ben.
Pis ses chemises à carreaux.
La foule se dit que probablement que Guns N' Roses vont venir jouer plus tôt, hein? Parce que Metallica, ils ont fini pis ils étaient censés jouer pendant une heure encore, tu sais.
J'aime que dans cette histoire-là, personne voulait que Faith No More revienne.
Il a jamais été question que Faith No More revienne. Retournez chez vous, Faith No More. Mais non, non. Guns N' Roses ne se pointe pas en avance. Les spectateuristes attendent et attendent et rien. Ils attendent en tout pendant 2h10. Puis là, finalement, les membres du groupe arrivent sur scène. Yes! On va pouvoir écouter Sweet Child of Mine! Mais là...
Sweet Chili Sauce!
Sweet Chili Sauce, ma tune préférée des Red Hot Chili Peppers. Fait que là... les membres du groupe de Guns N' Roses arrivent sur la scène, mais pas Axl Rose.
Il s'est perdu,
il est pas là. Fait que là, le groupe commence à jouer tout seul. Ça fait comme s'il faisait un jam, tu sais, un gros jam. Pendant une couple de minutes, il joue, puis il y a juste la musique, tu sais. C'est jazz, heavy metal, ils sont comme ouin, 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 ils jouent, là, ben, ok, ben c'est le fun, le show improvisé, mais c'est pas une toune qu'on connaît, puis il est où Axl Rose, c'est ce qui se passe. Fait que là, ils font ça pendant quelques minutes, et dans la foule, l'attention est palpable. Les gens sont écœurés d'attendre. Ils sont comme, mais c'est quoi ce mockery of a show qui nous présente à la place de Guns N' Roses, maudite affaire?
C'est quand même Slash qui est un excellent guitariste qui est là, là, je veux dire. C'est pas si pire que ça, là. C'est pas... C'est pas Sébastien qui vient te montrer la dernière chanson qu'il a appris dans son cours de guitare, là.
Non, pis c'est pas à flûte à bec non plus, mais il voulait entendre Sweet Child of Mine pis Knocking on Heaven's Door, OK? Bon.
Fait que
finalement, Axl, il se pointe sur scène. Axl. Il a un très bel accoutrement, laissez-moi vous le décrire. Il porte un bandana rouge comme Bret Michaels.
Ah! Oh.
Il porte des shorts qui ressemblent à des cuissards de vélo et un t-shirt blanc trop grand et ses souliers disent Axl.
It's a look!
It's a look! Est-ce que c'est un look pour aller faire ton jogging au Parc La Fontaine? Oui! Est-ce que c'est un look pour faire un show de heavy metal? Pas sûr!
Écoute, bon. Live your life! Mais je tiens à dire la joke, il s'est perdu en chemin. Le film This is Spinal Tap, où est-ce que le groupe, ils doivent aller sur la scène puis ils se perdent dans les
Mais si seulement c'est ça qui est arrivé, non, c'est pas ça. Axl Rose, on ne pourrait pas vraiment dire qu'il est plein de bonne volonté, c'est plutôt le contraire. Et là, quand il se pointe sur scène avec son bandana rouge puis ses cuissards, là, il a pas l'air de bonne humeur. OK?
Oh non.
Là, il chante une coupe de tunes, mais tu sais, il a l'air fâché, il donne des coups de pied dans les airs, il bardasse un peu. À un moment donné, il fait un doigt d'honneur à la foule.
On n'a rien fait! Come on! Ouais.
Après avoir joué Civil War, leur 9e titre de la soirée, Axl quitte la scène.
Ah! Il avait oublié de sauvegarder sa partie de 6. Ah!
Tout d'un coup, il s'est rappelé qu'il devait aller programmer son DVR pour enregistrer la semaine Bart, et il est parti. Et là, les autres membres du groupe finissent par partir aussi. Et là, les lumières se rallument encore.
C'est awkward.
C'est comme, t'es curé de porter le show tout seul sur nos épaules, là, Slash. Fait que t'étais comme, ça fait mal au dos, je vais aller m'allonger dans ma loge.
Je commence à avoir des ampoules sur les doigts, là.
Fait que là, les lumières se rallument encore. Les gens sont confus. Ça fait seulement 40 minutes que le concert a commencé. Puis ça faisait 2h10 qu'ils attendaient, tu sais. Et ils se disaient, hey, on a payé pour être là. On a dû considérablement couper notre budget de spray net pour se payer ça. Fait que revenez, puis jouez Stairway to Heaven, maudite gang de vous. Mais non, ça c'est... Puis là, tout d'un coup, un représentant de la maison de disques de Guns N' Roses arrive sur scène. Il annonce que le concert est terminé. Il n'explique pas pourquoi Axl Rose a décidé de partir, mais nous le savons parce que ça fait 28 ans de cela et que ça s'est rendu dans le domaine public. Alors voici, Axl Rose dit qu'il avait des problèmes à la gorge depuis le début de la tournée.
Oh non! Il avait mal à la gorge! Il avait la streptocoque!
Ils avaient déjà annulé plusieurs concerts et en plus, les membres du groupe de Guns N' Roses vivaient dans la bisbille la plus totale parce que tout le monde haïssait Axl Rose qui était super erratique et aussi très violent.
Mais voyons, je comprends pas pourquoi tu peux ne pas aimer Axl Rose. Il a l'air d'un very good old chap.
Very commendable young man. Alors... Yes. Bon, ben, à l'époque, écoute, on ne savait pas ça. Qu'il avait mal à gorge, hein, on savait pas ça.
On savait pas que c'était un bad guy, comme dans la chanson de Billie Eilish.
Mais en fait, c'est ça. À l'époque, on savait pas ça. Et là, suite à l'annulation du show et les meurtres que je vais vous raconter dans quelques instants, il y avait les rumeurs les plus étranges et farfelues qui circulaient dans les médias sur le comment du pourquoi de l'annulation du spectacle. Par exemple, Claude Rajotte a dit à Musique Plus qu'Axl Rose avait décidé de ne pas jouer le concert parce qu'une voyante lui avait déconseillé de jouer dans une ville dont le nom commençait par la lettre M.
Oh my God!
Peut-être que c'était Maria Duval.
Oh non, la petite maudite.
Oh non! En tout cas, bye bye Montréal. Et là, là, les spectateurs, là, ils sont pas contents et contentes, pas du tout.
Bruit de moto désapprobateur.
Vroom, vroom. Et dans le stade, des gens commencent à partir en panique et à partir des feux. Ils mettent le feu, entre autres, à leur chandail de Guns N' Roses, donc à la marchandise dérivée qu'ils ont achetée avant le spectacle. Non, non. Ils mettent le feu à leur billet et au swag, au chandail de Guns N' Roses. Et là, en sortant,
mais
les spectateurs...
Mais ils sont donc ben riches!
Ils sont riches en tabarnouche. En sortant aussi, les spectateurs font des doigts d'honneur aux journalistes, aux médias qui étaient sur place.
Oh, c'est tellement de leur faute!
Et il y en a même un qui crie « Fuck you, Guns N' Roses! » Parce que
oh, non.
Nous sommes tous des Montréalais, c'est ça, c'est comme ça qu'il a prononcé ça. Alors, d'autres incendies sont allumés à l'extérieur de la salle et dans l'enceinte du stade olympique. Par exemple, les guichets du stade sont mis en feu. La cafétéria a aussi été saccagée et finalement, les spectateurs en furie vont aller jusqu'à démolir complètement deux voitures qui étaient en exposition dans le stade. Tu sais, ils exposaient des nouveaux modèles de voitures. Ils ont complètement démoli, tout cassé les vitres, fait capoter, et il y en a même qui vont aller arracher les lavabos des murs dans les salles de bain.
OK, tout le monde, on va faire un exercice, ça s'appelle prendre une grande respiration.
Respirer par le nez.
Respirer.
Mais le pire dans tout ça, Audrey, le pire, la boutique des expos.
Oh non!
Les gens...
Oh non, on reçoit des expos!
Les gens ont tous saccagé la boutique des expos. Ils ont volé toute la marchandise des expos, puis ils ont tout cassé les vitrines, puis tout fait tomber les racks.
Qu'est-ce que les hipsters vont porter maintenant s'il n'y a plus de casquettes des expos?
On le sait pas! Sûrement des bandanas comme Axl Rose. La police arrive parce que, ben, pour reprendre l'expression des Chicken Swell, c'est la folie furieuse dans cette histoire-là. Puis là, les gens sont complètement... sont complètement sur le gros party, mais le party est très négatif. Et là, il y a une confrontation musclée qui s'ensuit, durant laquelle 27 voitures de police sont endommagées et certaines sont virées droit sur le capot.
Ben voyons donc, c'est un show de Guns N' Roses, people!
Mais ça avait viré en émeute de plusieurs milliers de personnes et il y a une trentaine d'individus qui ont été blessés au terme de cette émeute, dont 8 policiers qui ont subi des blessures légères. Une autre personne a été blessée plus sévèrement après avoir fait une chute dans les gradins du stade. Moi, je pense que la personne est comme tombée en bas d'un des balcons. J'ai pas trop compris. Ça avait l'air un peu terrible. Et il y a aussi... une préposée au casse-croûte, quant à elle, qui a fait un léger malaise cardiaque. Mais quand même, c'est très sérieux. En tout cas, Urgence Santé a dépêché...
Surtout qu'elle avait rien à voir.
Elle avait rien à voir partout. Mais tu sais, ils ont brûlé les guichets, tu sais. Je veux dire, les employés du stade, il n'y avait rien à voir là-dedans.
Ben oui. Ils
étaient pognés dans les meurtres, tu sais. Et finalement, Urgence Santé dit avoir dépêché 8 ambulances sur les lieux. Et là, le lendemain matin, le président de la Régie des installations olympiques, la RIO, le président s'appelle Pierre Bibeau. Pierre Bibeau est allé constater les dégâts. Il a estimé, selon le Soleil... Oui, c'est ça! Oh, ça, c'est brisé! Ah, ça! Y avait-tu une vitre, là, avant? Oh, y en a plus! Ah, ben, c'est ça, ça aussi,
regarde,
brisé.
Maintenant, je peux passer ma main! La vitre, elle est plus là!
Alors, il a estimé que les dégâts étaient moindres que ce qu'il craignait, selon une citation du Soleil.
Ah! Ah! Il reste encore un stade!
Oui, il y a du grabuge, mais c'est pas si pire que ça! Puis là,
regarde, on va mettre une petite couche de peinture, puis on a du tape, tout est correct!
On va mettre une coupe de feuilles de plywood ici, puis ça paraîtra même plus! Puis là, le maire, Jean Doré, il est aussi allé voir les dégâts et...
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Il a dit au Journal Le Soleil que la réaction des spectateurs, bien que déplorable, aurait pu être pire.
Sacrement!
OK, bref, tout le monde a l'air de comprendre que les gens étaient fâchés. C'est ça qu'on a arrêté là-dedans.
Je pense qu'il était pas de bonne humeur.
Les dommages, en tout, les dommages matériels s'élèvent à environ 400 000 $ pour le stade lui-même et 100 000 $ pour les autres choses arrivées dans la rue, comme les dommages sur les voitures de police.
Je m'attendais un peu plus, je dois te l'avouer.
Ben, c'est ça, tu sais, malgré tout, tout le monde a l'air de comprendre, surtout le président de la régie des inspections olympiques, tu sais. Tout le monde comprend que les gens étaient fâchés par le comportement d'Axl Rose. Même James Hetfield, le chanteur de Metallica, dans un article de la presse paru le 10 février 1993, soit quand Metallica est venu à Montréal pour faire son show, tu sais, James Hetfield a commenté par rapport au spectacle puis à la débandade qui s'en était suivie, et il a décrit les comportements d'Axl Rose en disant que c'était épouvantable qu'il ait causé un tel incident à cause de ses comportements enfantins. Fin de la citation. Fait que James Hetfield était comme « Oh, Axl, tu t'es comporté comme un petit enfant et c'est bien déplorable, mais c'était tout de ta faute. »
Faites une tape en arrière de la tête. Tape sur le poignet, je tique.
Mais là, ce n'était pas la première fois qu'il y avait une émeute après un show de Guns N' Roses. Je sais pas si ça vous surprend. Alors, une des fois précédentes où c'était arrivé, c'est le 9 juillet 1991 à Maryland Heights, au Missouri. L'émeute au Missouri avait eu lieu parce que Axl Rose, était sorti de scène de manière impromptue. Il existe une vidéo de ça, si vous voulez aller le regarder sur YouTube. C'est mal spécial. Ok, il est sorti de manière il est sorti de scène de manière impromptue, laissez-moi vous raconter. Il était en train de jouer une toune, il était en train de jouer Rocket Queen, et là, tout à coup, Axl voit quelqu'un dans l'assistance qui est en train de prendre des photos. Il arrête de chanter et dit dans son micro à la sécurité d'appréhender le monsieur. Puis là, littéralement, une seconde plus tard, là, il n'a même pas laissé le temps au garde de sécurité d'aller comme voir le gars puis dire d'arrêter de prendre des photos, tu sais. Une couple de secondes plus tard, il s'est jeté dans la foule, il a tassé les gens et il est allé arracher la caméra des mains du monsieur qui prenait des photos. Ensuite...
Mais voyons donc, il rusherait sa vie présentement avec les téléphones, là.
Sur le vidéo, on voit qu'il le frappe. Moi, je pense qu'il a donné une claque. Mais tu sais, à cause de l'angle de la caméra, tu sais, du vidéo, on voit pas trop. Puis ensuite, il remonte sur scène, il prend le micro, puis il chiale sur le, entre guillemets, le lame ass security du stade. Ensuite, il lance son microphone par terre, qui casse son micro, puis il part. Il est comme, ouais, ben moi, je jouerai plus ici parce que votre sécurité, c'est de la merde. Puis ensuite, il casse son micro, puis il s'en va. Fait que là, après ça, il y a eu une émeute de 3000 personnes qui a duré 3 heures et pendant laquelle 65 personnes ont été blessées, incluant 25 policiers.
Au Missouri.
Au Missouri, au terme
fait de l'émeute. Fait qu'ils ont mis le feu à un champ de blé d'Inde.
Ils ont mis le feu à un gros champ de blé d'Inde. C'est pour ça que les dommages se sont seulement élevés à 200 000 US. On se rappelle qu'il y a 400 000 de dommages au stade, là. Ça aurait pu être bien pire. Fait que c'est 200 000 US de dommages faits à l'amphithéâtre. Et là, au terme de ça, ben, un mandat d'arrestation a été mis contre Axl Rose pour l'incitation à une émeute. Mais, tu sais, il était dur à arrêter parce qu'il est en tournée.
Ah, maudit! Il est dans une autre ville!
Il est parti dans une autre ville! Comment faire pour mettre la main sur lui? Ce n'est pas comme si c'était une célébrité internationale!
Il est en dessous d'une pile de top modèles!
Où est-il? Et peut-être une pile de cocaïne, on ne sait pas.
Oh, alors, oui, sûrement!
Axl, il a aussi été poursuivi par Billy Stevenson, qui était un des spectateurs qu'il a bousculé quand il a essayé d'aller vers le monsieur puis arracher sa caméra. Puis le monsieur a dit qu'il était blessé au dos et à l'oreille parce qu'Axl Rose donnait des coups de coude pour aller claquer un quelconque kidam dans la foule. Et il l'a poursuivi au civil. Ouais. Et là, les déboires ont continué pendant la tournée. Le 17 janvier 1992, il y avait un concert à Dayton, Ohio, et Guns N' Roses a fait enrager la foule parce qu'ils se sont pointés sur scène avec un modeste 2h30 de retard.
Oh, Seigneur! Les gens sont debout tout ce temps-là, là.
Les gens sont debout tout ce temps-là. Les gens attendent. Puis, écoute, le show devait commencer à 20h, ça a commencé à...
10h30?
Oui, mais j'ai écrit minuit et demi, mais ça devait être 10h30. OK, donc le show devait commencer à 20h, puis ça a commencé à 10h30. Pour quelle raison est-ce que ça a commencé à 10h30? C'est pour la simple et bonne raison que Axl Rose était pas là.
Ah!
Il n'y a personne qui savait il était où. On était en 1992 et c'était difficile de le rejoindre, tu sais. Mais il s'est juste pas pointé pour donner son show à 8h. Fait qu'ils ont dû l'attendre jusqu'à 10h30 pour qu'il daigne se pointer au stade pour faire son show. C'est un tweet, là!
J'ai fini ma marche!
He's a mega tweet!
Je suis allée au cinéma regarder Mrs. Doubtfire.
C'est ma marche de santé! Fait que là, finalement, le 13 juillet 1992, La presse rapporte que Axl Rose a été finalement arrêté à New York pour répondre à des accusations d'incitation à une émeute. Il a été retrouvé par la police à cause de ce qui s'était passé au Missouri.
On l'a retrouvé, c'est celui qui est sur la scène.
Yeah!
En bobette.
Nous pouvons enfin l'arrêter. Alors, apparemment, il a été trouvé coupable de voie de fait suite à cette poursuite-là. Et de pas d'incitation à une émeute, mais de voie de fait et de bris de propriété par rapport aux dommages qui avaient été faits sur l'amphithéâtre au Missouri. Et... Axl Rose a été condamné à payer 50 000 piastres dorés d'amende.
Oh boy!
C'est pas grand-chose.
C'est pas beaucoup.
Non, c'est ça.
No.
Ah, pis, une autre affaire. Selon le Nouvelliste, le 9 décembre 1992, il y a une autre affaire sordide qui implique Axl Rose et Guns N' Roses. Guns N' Roses se produit à Sao Paulo, au Brésil.
Brésil!
Ça fait 24 heures que le groupe est là, et ils doivent se produire sur scène le lendemain et le surlendemain. Axl est en train de jouer au billard dans une des pièces des étages supérieurs de l'hôtel où il réside, et une foule de fans et de journalistes s'amasse dans le lobby. Et
là, des autographes!
Et là, Axl, il les voit, tu sais. Puis c'est comme s'il y avait genre une mezzanine. Fait que lui, il est comme à la mezzanine, puis il joue au pool. Puis là, il les voit. Et qu'est-ce qu'il fait, Axl? Est-ce qu'il les salue? Est-ce qu'il leur envoie la main?
Non! On dirait que je vois où est-ce que ça s'en va.
Il leur lance une chaise.
Ah! La police... Je pensais qu'il allait lancer les balles de poule.
Non, ça aurait été pire, mais il leur garoche une chaise par le balcon, et là, la police trouve pas ça drôle pantoute, et il est arrêté sur le coup pour avoir mis en danger des vies humaines. Parce qu'effectivement, si tu lances une chaise par un balcon, là, ça se peut que ça tombe vite, ça se peut que ça fasse mal, surtout si la chaise est en métal.
Oh my god!
Je pense qu'on peut en conclure qu'Axl Rose n'est pas une personne très sympathique, ce qu'il fallait démontrer, mettons.
CQFD.
Maintenant, let's go to court! De retour à Montréal! Yeah!
Yeah!
Alors, malgré tout ça, les productions qui s'occupaient de la présence de Guns N' Roses à Montréal, qui s'appellent les productions Donald K. Donald, affirment ne pas vouloir rembourser les gens qui étaient au Stade olympique en 1992. Parce que, après tout, le spectacle a duré à peu près 3 heures, excluant l'émeute, et...
on ne changera pas pour les meurtres.
Non, mais ça a duré à peu près 3 heures si on combine les 3 choix en même temps. Fait que ça devait en durer à peu près 5-6, mais ça n'a duré 3. On n'a pas vraiment raison de vous rembourser, tu sais.
Vous avez eu un show de Faith No More, là. Arrêtez de chialer, là.
Puis en plus, vous avez eu une émeute gratis, puis 2h10 d'attente gratis. On ne vous a même pas chargé pour ça.
Il y avait des autos de police en feu, là. C'est un beau show, ça.
Ouais. Vous n'aimez pas ça, voir du vandalisme?
Bon. Vous n'aimez pas ça, la violence?
Alors, malgré tout, selon Le Devoir, le mercredi 24 mars, on est rendu en 1993, tu sais, la Cour supérieure autorise un recours collectif de la part des 57 000 spectateurs. C'était une serveuse des Laurentides du nom de Maryse Clavel qui a demandé à la Cour supérieure la permission d'exercer au nom de tous les spectateurs un recours collectif contre Donald K. Donald, la boîte de prod du spectacle, et aussi contre la régie des installations olympiques. Je sais pas pourquoi la régie des installations olympiques était...
Ouais, je pensais que t'allais me dire contre Axl Rose ou la direction du groupe ou...
Non, le truc de prod, en tout cas. Maryse et les autres demandants et demandantes, là, requérantes, ils demandent un remboursement partiel du coût de leur billet, qui était... Est-ce que tu veux deviner combien ça coûtait?
Attends. On est en 92, au stade, il y avait 3 groupes, je vais dire 25$.
Oh, quasiment! Entre 28 et 33 et 50.
Yes!
Yes! Yes! Fait que là, ils veulent se faire rembourser leur billet qui... Ah, désolé, c'est entre 28 et 35 et 50. Donc, ils veulent se faire rembourser... ils veulent un remboursement partiel de leur billet. C'est tout ce qu'ils demandent. Mais là, pour pouvoir déterminer si il est possible de rembourser partiellement les gens qui ont payé entre 28 et 35 et 50 pour garder Guns N' Roses et Faith No More, il faut régler la question des petites écritures, tu sais, parce que ça dit en tout petit, en bas du billet, que c'est non échangeable, non remboursable, à moins d'une annulation du spectacle. Là, on a eu 40 minutes de spectacle. Ce n'est pas une annulation.
Ah.
C'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire qui rend Axl Rose encore moins sympathique. Je sais pas si vous le trouvez sympathique jusqu'à date, là, mais tu sais, il a prétexté qu'il avait des problèmes à la gorge. Mais là, excuse-moi.
J'ai la grippe.
Si t'es pas en état de faire ton spectacle, là, lui, c'était le troisième groupe de la soirée, annule-le, puis les gens vont avoir le droit d'avoir un remboursement.
Voilà.
Mais là, parce qu'il a donné 40 minutes de show, les gens, ils ont techniquement pas le droit à un remboursement. Fait que c'est là-dessus que va devoir trancher un juge. Et en attendant, la régie des installations olympiques et Donald K. Donald mettent de côté un fonds de 573 000 $ provenant de la vente des billets Parce que, ben, il devait sentir que la soupe était chaude et que peut-être qu'éventuellement, il allait avoir à rembourser certaines choses.
OK.
Le recours collectif s'est réglé à l'amiable, mais, malheureusement, les spectateurs n'ont jamais récupéré leur argent chèrement gagné. En effet, les deux parties se sont entendues pour un montant de 300 000 $, mais celui-ci va servir à rembourser le fonds d'aide au recours collectif, l'avocat de Maryse Clavel et les coûts pour la production des avis sur le jugement dans les journaux.
Ben non!
Oui! Et le reste
va être... Mais c'est tellement con!
Le reste va être donné à des œuvres de charité parce que, selon les journaux, et je cite, « une indemnisation aux milliers de détenteurs de billets serait à la fois onéreuse et impraticable. » Fait que là, il restait de l'argent excédentaire puis on décide de le donner à des œuvres de charité parce que c'était trop difficile de le splitter en 57 000.
Come on, là, on va pas tout retrouver puis vous envoyer une pièce par la poste. Come on!
Oh, bah, ça, hey, on n'est pas pour vous envoyer du sel, là, c'est le coup d'un timbre, OK? Fait que là, la cause, là...
Virement interac.
Je sais, tu sais. La cause a été portée en appel, mais l'appel a été rejeté, par trois juges. Et c'était l'histoire de l'émeute au Stade olympique, où le juge a tranché en faveur des demandants et en faveur des spectateurs, mais personne n'a eu son argent.
Ah, maudit!
Ta-da!
La justice!
Et je vous annonce que vous allez définitivement avoir un crime puff sur l'émeute suite à la victoire des Canadiens en 1993. Parce écoute, j'ai trouvé ça intéressant de faire des recherches sur les émeutes. C'est quand même amusant.
Ah, ben merci, c'était full intéressant et c'était vraiment le fun de faire des blagues de musique.
Yeah! Alors, rock roll!
On espère que vous avez apprécié cet épisode. Plutôt court, mais selon moi quand même assez rigolo.
Un petit crème puff
pour mettre un petit peu de crème dans votre café. Juste une petite gorgée.
Je
suis
pas capable de le dire du tout. Un petit crème puff.
Catherine, tu es russe.
Je suis une babouchka. Un petit crème puff. Da.
Mais oui, moi aussi, je tranche pas mal sur le... T'aurais pu juste faire un Morrissey puis canceller.
Ah, il aurait pu canceller. Oh mon doux. Je comprends que les gens étaient fâchés, mais là, aller jusqu'à vandaliser le magasin des expos, ça se fait pas, par exemple.
Respect pour les expos.
Respect pour Youpi. Hey.
Alors, si vous allez à un concert et qu'il est annulé... on vous recommande une petite camomille et de l'huile essentielle de lavande.
Oui, oui.
Et un breather et un peu de yoga.
Et peut-être d'aller voir Melchizedek pour faire réaligner vos chakras.
Voilà. Et il y a aussi cette invention, on appelle ça Spotify.
Ouais, aussi. Mais c'est pas la même affaire, hein? Spotify, Spotify te fait pas des doigts d'honneur puis il essaie pas de t'arracher ta caméra de dans les mains en te donnant des claques d'en face, là. Spotify peut pas tout faire pour toi.
Ah, Spotify, t'es trop gentil avec nous.
Il va pas non plus te cracher dans la face comme Roger Waters qui avait craché sur des gens au Stade olympique. Ça, c'est une autre histoire dont je pourrais parler
ben
un jour.
Voyons donc, c'est tellement pas propre.
T'as jamais entendu cette histoire-là? Ça fait partie des légendes des spectacles de rock qu'il y a eu au Stade olympique. Ouais, à un moment donné, Roger Waters faisait un concert, puis il y avait des gens dans l'assistance qui aimaient pas, puis il a craché sur eux. C'est une des raisons pour lesquelles il a écrit The Wall. Pour vrai! C'est une vraie histoire,
oh my
ça.
God.
Le Stade olympique, ça a été important dans l'histoire du rock'n'roll.
Wow! Je suis flabbergastée. Oh my God!
Je vais faire un autre crime pop là-dessus, parce qu'apparemment, tu connais pas ça non plus. Ben, c'est le fun! Tant de sujets et de rock'n'roll.
Wow! Non, je savais vraiment pas ça. Dans ma tête, en plus, Pink Floyd, c'est vraiment un groupe de gens très, très relax pour qu'ils sont dans un état tertiaire.
Non, du tout. Roger Waters, écoute, pour justement, on veut pas se faire poursuivre, fait qu'on va pas vraiment beaucoup parler de lui, mais il n'a pas très bonne réputation et il a déjà eu des problèmes de consommation d'alcool assez importants, puis ça le rendait pas mal agressif et désagréable.
Oh là là, d'accord.
C'est comme John Lennon, mais en plus, il faisait de la musique de l'espace.
La musique de l'espace! Bon, ben, si vous avez... des anecdotes de show vraiment whack à nous raconter. On vous invite à nous écrire. Est-ce que vous êtes fait cracher dessus par Roger Waters? Vous êtes-vous fait frapper dans la face par Axl Rose ou kicker dans les genoux par le drummer de Metallica?
Est-ce que vous avez assisté au bed-in de John Lennon et Yoko Ono à l'hôtel Reine Elisabeth?
Avez-vous participé à l'histoire du rock à Montréal?
Avez-vous? Ah, on veut le savoir.
Alors, on vous écoute, vous pouvez nous écrire unpeutdecrime@gmail.com. Si vous voulez nous suggérer un autre émeute, un autre crime aussi, on vous invite à nous écrire. Si vous voulez nous suggérer du café aussi, on vous lit. Sinon, on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook, @unpeutdecrime, et sur Instagram, @unpeutdecrime dans ton café. Aussi, on vous invite à noter le podcast sur Facebook et sur Apple Podcasts. C'est ce qui nous aide à avoir de la visibilité et à faire grandir la communauté de Un peu de crime dans ton café. Alors, on espère que vous avez apprécié et si vous avez envie d'écouter du Guns N' Roses, on vous souhaite un bon Spotify ou sinon, je pense que vous pouvez juste allumer votre radio en 97.7. Vous avez, selon moi, 95% de chance que ce soit Welcome to the Jungle qui est en train de jouer.
Welcome to the Jungle! We've got fun and games! On est bien, hein?
Ah, on est tellement bonnes, je suis sûre que les gens sont comme « Wow, j'ai accidentellement changé ma radio pour 97.7! » C'est incroyable!
C'est à s'y méprendre!
Oh, Seigneur! Mais, maintenant, c'est le temps de dire bon au revoir aux gens qui n'aiment pas District 31.
Oui!
Et de passer
notre belle chronique.
2 minutes de babine!
Alors, c'est notre nouvelle petite chronique où on vous raconte une histoire qui se déroule dans un épisode ou plusieurs épisodes de District 31. Donc, District 31 est une série d'histoires policières qu'on s'est fait recommander par plusieurs d'entre vous. Donc, on vous donne nos impressions sur nos histoires préférées dans District 31. Alors, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui, Audrey?
Fait que là, mon chum.
Ouais, partner. J'ai ma tasse qui dit SPGM, le service de police du Grand Montréal. La seule tasse qu'il y a de disponible au District 31, et je t'écoute.
Et moi, j'ai mon polo en dessous de mon veston. Puis j'ai mes cheveux en blowout.
Comme Patrick Swayze, mais ce n'est pas Dirty Dancing, c'est non. District 31.
C'est danse propre.
C'est alors. Danse propre à Montréal.
Fait que là, mon chum, vu que cette semaine, on a parlé d'un cas de musique, je me suis dit que moi aussi, j'allais te parler d'une histoire de crime et de musique. Fait que là, il y a une fille qui arrive au District 31.
Non.
Pour déclarer un vol. Mais pas n'importe quel vol. Elle s'est fait voler un violon Stradivarius.
Ben voyons donc. Qui veut voler un violon Stradivarius?
Quelqu'un qui veut des millions de dollars.
Évidemment.
Alors, le violon, en échange, on lui demande de payer une rançon. Et attention, une rançon en Bitcoin.
Ben voyons donc, pour vrai?
Oui, parce que District 31, c'est vraiment comme dans l'actualité. Tu sais, on suit qu'est-ce qui se passe. Présentement, hein, on est au courant.
Mais là, est-ce que les SD, les sergents détectives de District 31, vont nous expliquer tout le temps en faisant du exposition c'est quoi des bitcoins? Parce que je veux dire, si on a comme 45 ans et plus, peut-être qu'on sait pas c'est quoi.
Non, mais Babine va expliquer à Poupou
quoi?
Que les violons Stradivarius, on n'est pas si sûr que ça de pourquoi que ça vaut aussi cher et qu'il y a probablement un mythe qui règne autour de cet instrument de musique. Et par ailleurs, dans le monde des arts et de la musique, il y a beaucoup de mythes comme ça. Puis j'étais genre...
Est-ce que ça a été pris sur la page Wikipédia des violons Stradivarius, cette information-là? C'est ça?
Oui, c'est ça, c'est vraiment
c'est un fait divers. On a besoin d'une information random sur une sorte de violon spécifique. OK.
Je te cover, Luc Dionne. Je suis déjà sur la page de Wikipédia.
C'est réglé!
Alors?
Qu'est-ce qui arrive au violon Stradivarius?
Écoute, ce que j'aime le plus, par exemple, c'est que Gildor Roy, c'est comme le chef.
Oui.
Gildor Roy de Kilomètre Heure.
Oui, bien sûr.
Alors?
Le seul et l'unique.
Le seul et l'unique. Et à toutes les fois qu'il parle du violon avec la bosse, il parle du violon dans des termes tellement violents. Genre des gros mots que je vais pas répéter ici parce que j'ai l'impression que les gens vont pas aimer ça.
Mm-hmm.
Il dit toujours l'os de violon de ma de ch... et il en parle avec tellement de violence et de haine et de hargne que je suis convaincue que la mère du personnage de Gildor Roy s'est fait assassiner par un violon. C'est la seule chose qui peut expliquer autant de hargne envers un instrument de musique.
Ouais, ok. Un vol de violon, c'est un crime au même titre qu'un vol à main armée, ok? Important aussi!
Et là, on apprend que la jeune fille, la personne qui lui a confié le violon, veut payer la rançon. Et là, Babine dit « Mais non, c'est une mauvaise idée, parce que là, maintenant, les gens vont faire la file pour lui voler son violon! » Et Poupou, entre-temps, trouve
quoi?
Des gens à moto qui ont volé le violon dans la voiture de la jeune fille.
Quoi?
Et il va à une station-service pour demander, parce qu'il les a vus sur la vidéo de la caméra de surveillance payée avec une carte de débit.
Ben oui.
Alors il demande le numéro. Mais là, en demandant le numéro, les voleurs, ils se rendent compte que la fille, elle a été à la police. Alors à la fin d'un épisode, elle retrouve le violon en morceaux en dessous de sa voiture.
J'ai tellement de questions. Je suis triste pour la madame avec son violon, mais j'ai beaucoup de questions. Ma première question, c'est pourquoi c'est Babine qui s'occupe de ça? On le rappelle, c'est comme pour le truc de l'ayahuasca dont on parlait il y a deux semaines. Babine, il fait les homicides. Pourquoi c'est lui qui s'occupe du vol de violon? Ça n'a même pas rapport.
Je pense que c'est parce que quand la jeune fille elle arrive au poste, elle dit « Ah, je veux signaler un vol », fait qu'ils viennent pour y faire remplir comme un formulaire, mais elle dit comme « Non, non, c'est un objet de grande valeur », fait que ça prend un sergent détective.
OK, puis il n'y avait rien d'autre intéressant à faire ce jour-là.
Parfait. Ben oui, en fait, parce qu'il est encore sur le cas du gars qui a tué sa mère avec de la ayahuasca.
Non, encore?
Oui, c'est still going on, puis là, entre-temps, il y a aussi une madame qui se fait kidnapper, là. Fait que là, c'est
Ma deuxième question, c'était c'est quoi ça l'explication de non, tu aurais pas payé la rançon parce que le monde va faire la file pour te voler ton violon? Ça, c'est comme si tu te fais kidnapper ton bébé, puis c'était comme tu devrais pas payer la rançon parce que les gens vont faire la file pour te voler ton bébé, maudit monsieur Lindbergh.
Je sais pas, c'est l'explication que Babine ou Poupou donne, j'en rappelle plus lequel des deux. Ben, ils disent de pas payer parce que c'est. Parce que justement, ça donne un signal que tu vas juste faire ce que les gens ils disent.
Ouais, ben là, moyennement d'accord.
Mais je tiens à dire que la chef, Gabrielle, a dit à Guide de Roi « Ouais, c'est quoi, c'est des bitcoins? » Puis il est comme... Puis il fait juste... Il fait un regard méchant puis s'en aller.
C'est plus facile que de l'expliquer.
Fait que je pense que même les writers de District 31 étaient comme « Non, on rentre pas là-dedans. »
Non, bon. Voilà. Fait que là, sur une échelle de 1 à 5, tu sais, 5 étoiles de sensationnalisme, combien qu'on donne à l'histoire du Stradivarius?
Je pense que 4 étoiles, ça va être assez, là, parce que...
Ouais, c'est pas 7 étoiles comme l'ayahuasca, tu sais. Après tout, c'est de la musique classique, puis il y a personne qui s'intéresse à la musique classique, c'est ça, la
c'est
morale.
Relaxant, la musique classique, puis comme... c'est peut-être plus pour Poupou puis Babine qui trouvent le crime vraiment ridicule, puis qui arrêtent pas d'être comme « Oh, moi, c'est la musique classique, oh, 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 oh. »
musique classique, c'est aussi de la vraie musique, OK?
Mais pour le niveau de violence des propos de Gilda Roy envers le violon, par exemple, ça vaut l'écoute.
Ça vaut l'écoute juste pour ça, juste pour voir la haine de Gilda Roy envers les violons.
Exactement.
Je me demande ce qu'il y avait fait. Fait que c'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui.
Yes, sir.
Yes, sir. Fait qu'on vous dit à la semaine prochaine, tous les sergents détectives d'un peu de crime dans ton café.
À la semaine prochaine, mon chum.
À la semaine prochaine, partner.
Discat.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.